Mon nom est Fyodor Serafimovitch Drujinin. Je suis né à Moscou en 1932. Petit garçon déjà, je ressentais le besoin de relater les événements qui sortaient de l'ordinaire et qui avaient une influence sur notre destin. C'est ainsi que j'ai décrit les premiers bombardements de Moscou dans un cahier d'école en 1941. J'avais à peine 9 ans. Encore aujourd'hui, mon cœur se serre d'angoisse quand je relis ce que j'avais noté alors. Nous buvions le thé avec maman. Et tout à coup, on a entendu des tirs et l'alarme a été déclenchée. Maman a mis un masque à gaz et nous sommes allés au refuge. Il n'y avait déjà plus de place, alors nous nous sommes assis sur une marche. Les obus explosaient juste au-dessus de nos têtes. Leurs éclats tombaient par terre avec un bruit sonore. Nous étions assis en silence dans notre refuge depuis 3 heures déjà, lorsque la porte s'est ouverte brutalement. Une femme est entrée et s'est précipitée vers le robinet, aveuglée par une bombe qui était tombée dans le sable et avait explosé au moment où elle s'en approchait. Ensuite, un cri s'est élevé dans l'entrée. « Qui habite l'appartement 20 ? L'immeuble est en train de brûler !» Maman et moi, nous nous sommes approchés de la fenêtre pour avoir le temps de nous sauver par les escaliers de secours si le feu détruisait la maison. Ensuite, tout est devenu calme. Cela faisait déjà 8 heures que nous étions assis dans ce refuge. Puis la fin de l'alerte a été annoncée. Nous sommes sortis et avons marché sur les éclats de verre dans toute la rue. Ce fut le premier bombardement de Moscou. Malgré la guerre et les bombardements, nous n'avons jamais quitté la ville. Notre famille, dont j'étais le dernier enfant, vivait au début de la ruelle Reshchikov, à 100 mètres de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. Tout près de chez nous se trouvait la défense anti-aérienne. Sa puissante canonnade est restée pour moi la plus tendre et la plus apaisante des berceuses de mon enfance. Je savais distinguer sa voix du cœur de l'artillerie. Je la reconnaissais à son timbre et à sa force. Et elle m'apaisait. Thank you. C'est dans ces dures années-là que j'ai commencé ma carrière de concertiste. Ah, très modestement, il faut le dire. Maman faisait la lecture dans les hôpitaux pour blessés de guerre, et elle me prenait avec elle. Et moi, j'emportais mon violon. Je me souviens de ces chambres où étaient alités des soldats brûlés, estropiés, presque entièrement recouverts de bandages. Je leur jouais des pièces de mon répertoire, par exemple des œuvres de compositeurs français que j'aimais bien. Un jour, après ma prestation, l'un d'entre eux m'appela près de son lit. Il était couché, avec la jambe surélevée. Il me caressa la tête et me demanda mon âge et mon nom. Ensuite, il passa commande. Joue-nous donc la Kamarinskaya, mon petit. Je connaissais la mélodie de ce chant populaire et la lui improvisais. Quel bonheur on pouvait voir dans son sourire édenté. C'est ainsi que je perçus aussi mes premiers honoraires, en me payant en lait, parfois un bol, parfois un bol et demi. J'ai commencé le violon tout petit. J'avais tout juste 5 ans, lorsque mon père décida un jour de me montrer à la femme de Chaliapine, le célèbre baryton, qui venait régulièrement nous rendre visite. Lorsque j'eus fini de jouer, Yola Ignatievna dit tout à fait sérieusement à mon père « Ce garçon fera un véritable artiste. »« Qu'est-ce qui vous fait dire cela, chère Yola ?» interrogea mon père, surpris et heureux. « La façon dont il accorde son violon, » répondit-elle. On décida que je devrais intégrer l'école centrale de musique, institution incontournable à Moscou pour tout jeune musicien doué, et qui avait été fondée en 1932, l'année de ma naissance. Je dois avouer que l'examen d'entrée à l'école centrale de musique fut pour moi une véritable torture. Le jury était composé d'éminents professeurs et présidé par Boris Yevgenievitch Kuznetsov en personne. Tous les candidats devaient attendre dans le couloir jusqu'à ce qu'on les appelle dans la salle, un à un. D'abord, il fallait jouer quelques gammes, puis une étude, et enchaîner avec un concerto ou des pièces accompagnées au piano. Tous avaient auparavant régulièrement répété ces concertos avec le pianiste, et en écoutant mes concurrents, je compris que je n'avais aucune chance. J'étais surtout stressé par les gammes que je ne maîtrisais pas trop. Ma situation était d'autant plus délicate que je semblais n'intéresser personne. Bien que mon nom fût parmi les premiers de l'alphabet, on ne m'appelait pas, et je restais assis, tremblotant sur ma chaise, tenant mon violon par le manche. Enfin, lorsque tous les candidats eurent joué, la salle se vida et les délibérations commencèrent. Soudain, Kuznetsov se retourna et m'aperçut. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» me demanda-t-il. « J'attends l'examen. Comment t'appelles-tu » « Fyodor Serafimovitch Druzhinin. » « Mais pourquoi n'as-tu pas joué à ton tour ?»« Personne ne m'a appelé. Je n'ai pas bougé, j'ai attendu. » « Bon, viens ici. Qu'est-ce que tu peux me jouer ?» « Une marche funèbre, » lui répondis-je, ce qui correspondait parfaitement à mon humeur. « Quelle marche funèbre ?» me demanda Boris Kuznetsov, avec étonnement. « La mienne, » répondis-je, « pour violon solo. » Les membres du jury se retournèrent amusés et s'exclamèrent « Il n'a qu'à jouer !» Je montai sur la scène les mains froides et collantes d'inquiétude, et commençai à accorder mon violon. Sans me le faire répéter, craignant qu'on ne me fasse jouer une gamme, j'interprétais ma marche funèbre. Elle abondait en accords, en harmonies suraiguës et en notes dissonantes pour l'époque. Après quelques secondes de silence, une voix s'éleva de la commission, semblable à un verdict. « Joue une gamme. »« Laquelle ?» demandai-je avec résignation. « La majeure, » me répondit-on. Je commençais à jouer la gamme selon la technique qu'on m'avait enseignée à la maison, mais je fus très vite arrêté par un des membres de la commission. « Assez, ça suffit. Assez, tu entends ? Et les arpèges ? Non, non, ça suffit, c'est pas la peine. Viens ici. » Je descendis de la scène et m'approchai de la table. On me demanda si je savais jouer des pièces du répertoire classique et si j'avais préparé autre chose que cette marche. Je répondis que j'avais préparé le concerto de Hollander, mais que je ne l'avais pas répété avec un pianiste. Sur ce, on me laissa partir. Lorsque je sortis de l'école, il faisait déjà nuit. Mes parents furent soulagés de me revoir. Ma longue absence les avait inquiétés. Je leur annonçai que j'avais fait un très mauvais examen et qu'il n'y avait pas de quoi s'échauffer l'esprit. Quelle ne fut pas ma surprise et notre joie d'apprendre quelque temps plus tard que j'avais bien été admis à l'école centrale de musique, non seulement en classe de violon, mais aussi dans celle de composition. À présent, il faut que je vous raconte comment je suis passé du violon à l'alto. J'étudiais le violon depuis peu, et ces quelques mois passés dans la classe de violon furent les plus frustrants de toute ma vie de musicien. On me donnait des exercices et des études si difficiles que j'en ai encore aujourd'hui froid dans le dos. J'étais entouré d'élèves d'excellent niveau. Sitkavetsky, Kogan, Bisrodny, et bien d'autres encore. Malheureusement, mon professeur m'évaluait à l'aune de ces brillants violonistes, et à la fin de l'année, décréta que j'étais tout à fait dépourvu de talent. Il me conseilla de tenter ma chance avec un nouveau professeur, Nikolai Borisovitch Sakhalov, si toutefois celui-ci consentait à m'accepter. En guise d'adieu, il me gratifia de l'étude du 9e concerto de Berlioz. Maman m'accompagna pour me présenter chez le nouveau professeur. Je lui jouai une page du dit concerto, que Nikolai Borisovitch écouta patiemment. Maman lui expliqua ensuite qu'on s'apprêtait à me renvoyer de l'école, à moins qu'un professeur n'acceptât de me prendre. Nikolaï Borisovitch manifesta un certain étonnement. Visiblement, quelque chose lui avait plu dans mon jeu. Il me tendit alors un petit alto et me demanda si le son de cet instrument me plaisait. Je l'essayai. « Oui, » répondis-je. J'avais un grand violon et le soir même, mon père et moi avons fait le tour des magasins afin de trouver des cordes d'alto à tendre sur mon violon. Nous en trouvâmes par hasard chez un maître luthier qui m'apprit comment fixer les nœuds. Ce soir-là, je suis devenu altiste. Impossible de compter combien de fois j'ai gravi les marches du conservatoire de Moscou, qui malgré tous les changements de notre époque est resté presque tel que lorsque j'y suis entré pour la première fois. Je vous invite à pénétrer discrètement dans l'aile de la petite salle du conservatoire, réservée aux études. Montons l'escalier qui part du vieux vestibule, laissons nos vêtements aux bons soins des six gentils Babouchka, Mania et Masha, qui s'informe toujours de notre santé et de la santé de nos proches. Longeons le foyer du premier étage et ouvrons enfin la porte de la classe numéro 13, d'où s'échappent d'épaisses volutes de fumée. Nous sommes arrivés. C'est bien la classe du professeur d'alto, Vadim Vassilievitch Borisovski. Nous découvrons alors un bel homme, de haute taille, qui prononce doucement les R à la française quand il parle. Il tient la tête légèrement relevée, ce qui lui donne l'air de tout regarder de haut. Il est affublé de lunettes en corne qu'il relève sur le front lorsqu'il veut examiner quelque chose de près. Dans une de ses mains grandes et délicates, il tient une éternelle cigarette entre l'index et le majeur. L'élève a déjà ouvert son étui, a sorti son instrument et s'approche maintenant du piano. Alors, jeune homme, de quoi nous régalez-vous aujourd'hui? Voyons. Glinka, Hindemith, Prokofiev? Allez, sors-moi donc Glinka. Le reste, on verra plus tard. Chaque cours de Vadim Borisovski se transformait pour moi en concert. J'éprouvais la même inquiétude, je sentais la même concentration et je recevais les remarques de mon professeur à travers le prisme de ses sensations. Les remarques de Vadim Borisovski n'étaient pas tendres, mais toujours justes. « Tu joueras ces études de Kreutzer pour t'affermir le quatrième doigt à la reprise, s'il te plaît. Et inutile de tricher. » fait la transition avec le quatrième doigt. Je sais bien que ce n'est pas commode ni facile, mais tu dois en être capable. Tiens, regarde ces accords secco, s'il te plaît. Tu sais ce que ça veut dire en italien? Bien. Comme ça, oui. Mais un peu plus énergique et plus court. Qu'est-ce que c'est que ce pizzicato? On dirait un crayon dans une boîte de conserve. Attends là. Place les doigts. Il s'approchait alors et il me pressait les doigts sur les cordes jusqu'à ce que j'en crie de douleur. Maintenant, joue et vibre. Voilà. Comme ça. Sur la corde à vide aussi. Et fort, s'il te plaît. Si Vadim se retournait vers la pianiste après que j'ai joué et lui demandait « Eh bien, Anna Oumovna, qu'en dites-vous ?» Cela signifiait qu'il était content. Mais il exprimait toujours sa satisfaction avec réserve. « Ça ira », disait-il simplement. Je ne peux me consoler de l'absence de Vadim Borisovski. Et bien qu'à présent j'occupe sa place au conservatoire et possède les mêmes titres que lui, chaque fois que je pense à mon professeur, je me sens de nouveau un petit garçon et descendrai volontiers lui chercher son paquet jaunâtre de douka dont il avait toujours une réserve dans la poche de son manteau. Je lui suis éternellement reconnaissant de m'avoir transmis l'amour pour cet instrument exigeant et difficile qu'est l'alto.